prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, une étoile dans la nuit.
On va faire une courte lecture dans le livre de Job. Alors, vous connaissez Job, et on ne connaît pas toute la somme de souffrances, en tous les cas qu'il a pu endurer, mais toujours est-il, eh bien, il nous instruit. C'est le récit, eh bien, d'une vie, et nous allons lire tout simplement au chapitre 1er. Voilà. Donc, livre de Job, chapitre 1er, et nous allons méditer sur deux versets. Voilà, je rappelle, Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste. » À Dieu. Voilà pour situer notre méditation ce matin. Et j'aimerais dire en préambule, tout simplement, ce phénomène qui est celui de la souffrance, souffrance d'un croyant, souffrance d'un homme de foi, et nous saisissons à travers ces premières pages de ce livre le basculement, si je peux m'exprimer ainsi, le basculement soudain et brutal. Eh bien, de la vie de ce personnage, en l'occurrence de Job. Et c'est vrai que les explications de ce qui s'est passé nous est tout simplement révélées à travers le chapitre 1er et le chapitre 2 de ce même livre, mais qui étaient cachées pour Job. Lui, il vivait les choses. On pourrait dire plutôt qu'il les subissait. Et nous savons quelque chose de plus que lui, c'est que nous savons le pourquoi de la réalité finalement de ses souffrances et de ses douleurs. Alors c'est vrai que quand on aborde ce livre, il faut toujours avoir en arrière-plan, il faut toujours mettre en arrière-plan cette tragédie qui frappe tous les hommes dans tous les temps et dans toutes les générations, c'est-à-dire tout simplement l'intrusion de ce personnage dont la Bible nous parle, que Paul nommera le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire cet arrière-plan diabolique. Et d'ailleurs, il est nommé ainsi, il est question de Satan, qui défie Dieu à travers un homme qui s'appelle Job, un homme dont il nous est simplement rappelé qu'il était intègre et droit, qu'il servait Dieu et qui pourtant va vivre des choses épouvantables et des choses terribles. Alors, nous allons porter un regard sur les événements existentiels et puis leurs conséquences naturellement. Et ce matin, nous allons donc réfléchir sur tout simplement une réalité de notre vie, c'est perdre. Voilà, on est dans une société où on aime bien gagner. Enfin, je pense qu'à travers tous les temps, les hommes aiment gagner. Et aujourd'hui, nous sommes exhortés par toutes sortes de phénomènes ambiants à gagner. On est préparé à devenir, on est stimulé, déjà le plus jeune âge, à devenir des gagnants. Mais on s'aperçoit que c'est un petit peu, parfois l'inverse, dans nos vies, parce que lorsque nous considérons l'Évangile, perdre, c'est gagner. C'est comme ça, Qui perd, gagne. Alors, c'est vrai que ce sont des choses difficiles à vivre lorsque nous subissons des pertes. Mais nous allons avoir un regard, je l'ai précisé, un regard qui peut nous donner de voir les choses différemment. Et dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font partie justement de ces pertes. Lorsque nous parlons de ce phénomène sociétal ou ce phénomène de société qui est le divorce, c'est une perte. Nous pouvons y ajouter les séparations non voulues. C'est vrai, c'est encore une perte. Les vols et les agressions, c'est encore une perte. Les catastrophes naturelles, on a parlé ces derniers temps de ces gens qui ont tout perdu à travers la montée des eaux, hein, ces torrents qui déferlent soudainement là comme ça dans certaines régions, et puis les incendies pour d'autres dans d'autres contrées. Le chômage, c'est une perte aussi, hein, perte de l'emploi, perte de la subsistance, enfin des moyens d'existence. Le rejet affectif est aussi une perte. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde où il y a beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui sont affectés par eh bien le rejet, le désamour, hein, le mal aimé, et puis toutes les trahisons, la solitude, les grandes déceptions, et puis également eh bien la terminaison finalement de l'existence, c'est-à-dire la mort. Et tout cela laisse des traumatismes, et ce sont des pertes. Alors, lorsque nous revenons à Job, nous nous apercevons que Job a vécu tout cela, d'ailleurs. Hein, il a perdu ses enfants, il a perdu ses moyens de subsistance, il a perdu sa femme, il a perdu sa santé, enfin bon, énormément de choses. Et perte est synonyme de déchirure et de peine. Oui, c'est vrai, c'est vécu comme cela. Et dans les lieux qui sont les nôtres, on a souvent l'occasion de rencontrer des gens qui viennent nous voir, non pas quand tout va bien, mais souvent faisant le bilan de leurs pertes, hein, de leur un bilan négatif, un bilan parfois désastreux. On se demande comment ils ont pu traverser tout cela. Et c'est ainsi qu'ils découvrent... hélas, je dirais que ça pourrait être dans d'autres circonstances, mais il découvre la grâce de Dieu, donc déchirure et peine. C'est aussi, d'abord, dans un premier temps, eh bien, en ce qui nous concerne, qui pouvons vivre ce genre de situation, c'est un regard attristé sur le passé. Parce que les pertes d'aujourd'hui nous donnent de regarder derrière et on se dit, mais c'était mieux avant. Ça, c'est sûr que, eh bien, nous avions ceci et cela. Donc, ça peut être un regard attristé sur le passé, les faillites, hein, les échecs et avec tout son cortège de regrets, naturellement. Ce peut être un regard également sur le présent difficile, parce que réalité et sentiment, eh bien, nous donnent véritablement de vivre le vide. Et c'est quelque chose de très désagréable dans la nature humaine. Hein, le vide, on ne le supporte pas. Et puis, c'est aussi un regard sur l'avenir, un avenir qui est désorienté, qui est dépourvu de perspective. Et vous savez que nous avons besoin quand même d'avoir une vision, hein, parce qu'autrement, on ne vit pas, c'est pas possible. Hein. Alors, dans les choses spirituelles, naturellement, pour les chrétiens, mais également d'une manière générale, où il nous faut quand même, eh bien, de dire, demain, nous irons ceci, ou nous ferons cela, peu importe. Mais, en tous les cas, c'est ces différents regards, à la fois derrière nous, dans notre présent, et puis également, eh bien, devant nous. Et c'est toujours quelque chose de très blessant lorsque nous perdons un être ou un objet qui a disparu. Et cette perte entraîne tout simplement divers états et réactions, et ça peut se traduire par le refus d'accepter les choses. Ça peut se traduire par de la dénégation. Je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Hein, on a vu dans les reportages, dans les catastrophes qui ont eu lieu, que ce soit ici ou ailleurs, les gens n'arrivent pas à réaliser, hein, surtout dans les premiers temps. Ils se disent, mais c'est pas possible que j'ai perdu ma maison. C'est pas possible qu'il y ait eu ceci et cela. Il y a des situations d'une grande brutalité dans notre vie, c'est l'accident, hein, sur la route. Et du jour au lendemain, tout peut basculer. Hein, et c'est aussi, eh bien là, quelque chose qui est difficile à vivre. Alors, dans un premier temps, il y a cette dénégation. Après, il y a peut-être cette acceptation. Mais au bout d'un certain temps, on se dit, non, je ne m'y habitue pas assez. C'est vraiment très, très difficile. Alors, le livre de Job, c'est un peu tout cela. Je suis en train de faire une introduction avant d'aller un peu plus loin. Mais pour nous montrer que ce sont des choses qui appartiennent à la vie. Et je voudrais simplement souligner que les chrétiens ne sont pas exempts de cela. Hein, quelquefois, il m'est arrivé d'entendre certains chrétiens idéalistes qui m'ont dit, eh bien moi, parce que je sers le Seigneur, parce que je suis consacré, parce que je prie, parce que je suis fidèle, ça ne m'arrivera pas. Pouh, oula. Alors là, c'est véritablement un grand optimisme. Parce qu'on s'aperçoit que les problèmes, eh bien, ils sont, c'est vrai, à l'extérieur, mais ils sont aussi à l'intérieur de l'Église, et malheureusement, ça arrive. Même au meilleur. Et c'est comme cela, tout simplement. Alors, il y a ce genre de réaction, de refus, de dénégation, parfois de colère. Hein. On se dit, non, c'est pas possible. Et puis, toutes sortes de choses qui peuvent entraîner à un état de découragement, de dépression. Et après des grands chocs de l'existence, il y a des gens qui, eh bien, baissent les bras et se disent, voilà, eh bien, à partir de telle fête de mon existence, eh bien, je ne vis plus. La vie s'est arrêtée. Alors, c'est pas cela. Hein, je crois que tout cela nous est montré parce que ce sont des cas de, d'espèce, ce sont des figures de la vie et quelque part, eh bien, nous avons besoin de regarder plus haut parce que c'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive aussi à nous-mêmes, et comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons, comme le dit le livre des Hébreux, eh bien là, tout simplement, nous laisser aller l'âme découragée? Hein, c'est les termes d'Hébreux, chapitre 11. Et je crois que derrière, il y a autre chose. Je pense que Dieu va nous apprendre. Et ce matin, Dieu va nous rappeler certaines choses, certains principes, hein, qui sont là pour nous dire, eh bien, au lieu de nous arrêter, au lieu de tomber dans des jérémiades justifiées ou dans des lamentations où nous allons nous renfermer dans une prison. Alors Dieu nous dit maintenant, eh bien, il faut que tu regardes devant toi, parce que j'ai autre chose. Et il y a des choses surprenantes. On est toujours émerveillé de savoir que Dieu a des plans que nous n'aurions jamais soupçonnés si nous n'étions pas passés par telle ou telle situation. Et c'est vrai. Alors, je dirais que la réaction de Job est exemplaire, et je dirais même davantage, j'emploierai un autre qualificatif, elle est admirable. Permettez-moi, je relis. Alors il nous est dit que, à ce moment-là, quand Job a constaté tout l'écroulement de sa vie, il nous est dit qu'il s'est levé, il a déchiré son manteau, et il s'est rasé la tête. Ça, c'est une réaction de colère. Elle est tout à fait naturelle, mais elle est là. Puis il s'est jeté par terre, et il s'est prosterné. Et il a dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je ne sais pas si dans nos différentes circonstances négatives de notre vie, nous disons cela. Hein? « Seigneur, tu m'as donné, tu as ôté, eh bien je te bénis. Je te bénis encore, Seigneur. Je te bénis de ta grâce. Alors je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas comment je vais survivre et comment subsister après ce séisme, cette catastrophe, ce tremblement. Mais, Seigneur, Job, en tous les cas, lui, a vécu véritablement, eh bien, hein, ce tremblement de terre, hein, on peut le dire, si l'on peut s'exprimer de cette manière. Et il a dit pourtant, Seigneur, tu as donné, je suis arrivé nu, je repartirai nu, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous voyons que sa réaction, elle consiste tout simplement en une attitude, dans un premier temps, réactionnelle, violente. Ouais, il se met en colère, il se couche par terre, et il fait cette déclaration ensuite, qui est une déclaration inattendue, et on y devine le principe, hein, je répète, on y devine le principe libérateur de l'acceptation. Je dis bien de l'acceptation. Job dit, ben, puisque c'est ainsi, puisque moi, je suis sur la terre, toi, tu es au ciel, et que dans le ciel, que ta volonté soit faite au ciel comme eux, nous aimerions qu'elle soit faite sur la terre, alors maintenant il y a accord. Et ce n'est pas de la résignation. Un chrétien ne vit pas la résignation. C'est une capitulation, la résignation. Nous résignons pas parce que, eh bien, nous serions fatalistes. Non, nous acceptons les choses, même si nous ne les connaissons pas encore, mais nous croyons que le Seigneur a quelque chose d'autre derrière, et nous voyons que ça, c'est tout simplement un principe qui ouvre sur l'importante question que nous allons définir maintenant. Que puis-je? Qui puis-je? Qu'est-ce que je peux faire dans une situation pareille? Ou est-ce que je vais retirer quelque chose de mes pertes? On n'y pense jamais à cela. Qu'est-ce que je vais retirer de ma perte ou de mes pertes? Est-ce que mon vécu difficile, eh bien, je vais en sortir plus fort ou plus faible? Ça, c'est encore une autre interrogation. Dans quel état, finalement, tu as permis cela, Seigneur? Tu as permis telle ou telle situation, tel événement dans ma vie, mais comment? Est-ce que je vais en sortir plus fort ou est-ce que ça va m'anéantir? Est-ce que je vais en sortir plus sain d'esprit ou est-ce que je vais en sortir plus malade? Parce que finalement, le but est le but de celui qui est dans cette main meurtrière et qui ruine la vie des individus, c'est véritablement de nous conduire à descendre. Et descendre le plus bas possible, dans le désespoir. Mais est-ce que je vais en ressortir malade? Parce que ça rend malade, hein, faut bien le dire. Il y a des choses qui sont finalement, eh bien, pas trop graves. Ah, perte d'argent ne fait pas mourir, hein. Perdre un travail, on peut en retrouver un autre, bien que ce soit très difficile, hein, par les temps qui courent. Il y a bien d'autres situations comme cela. Mais quand ça touche à notre affect, quand ça touche au plus profond de nous-mêmes, c'est encore, eh bien, d'une autre envergure. Alors, entrer dans l'acceptation, Job est entré dans l'acceptation des choses, relève d'une décision personnelle. Je veux ou je ne veux pas. Je continue à me renfermer dans la colère, dans la dénégation. Je me rends malade à m'apitoyer. Eh bien là, un temps indéfini. Alors ça relève, je le répète, d'une décision personnelle qui me fait échapper à l'handicap, parce qu'il y a un handicap naturellement, et va m'aider et à m'épanouir et à avancer. Dieu change le mal en bien. Nous nous sommes retrouvés dernièrement, nous avions parlé sur ce texte de l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon ses plans. Et moi je sais personnellement, et vous le savez pour vous individuellement, qu'il y a un plan particulier pour chacun, selon ses plans, pour ceux qui l'aiment, naturellement. Et dans la difficulté, il ne faut pas cesser d'aimer Dieu parce que lui ne cesse pas de nous aimer. Bien que nous puissions avoir l'impression qu'il nous laisse tomber. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. D'abord, considérons que le mot, le nom perte, P-E-R-T-E, peut, en changeant simplement une voyelle, peut devenir porte. Perte égale porte. Et vous savez ce que c'est qu'une porte? C'est fait pour entrer, c'est fait pour sortir. En principe, ça sert à ça. Et nous allons maintenant découvrir la signification en ouvrant un autre livre qui s'appelle le livre d'Osée, le prophète Osée. Lui aussi, il a souffert pas mal de difficultés, mais il a souffert, c'était surtout sentimental et affectif. Le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16. Vous connaissez ce texte parce que c'est certainement la citation la plus connue de ce livre, de cet ancien prophète. Alors, Osée 2, verset 16. Et c'est Dieu qui parle. Et il parle à son peuple, et il parle à chacun d'entre nous. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte, d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Moi, je trouve que c'est un passage, un verset très poétique et magnifique. Ouais. C'est Dieu qui parle à Israël, à son peuple. Et comme il nous parle à chacun, nous pouvons nous identifier au singulier, naturellement. Je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur, et je lui donnerai, je lui ouvrirai, je lui montrerai une porte d'espérance. Je voudrais ajouter ceci, c'est qu'avec Dieu, Dieu avec nous, nous avec lui, tout espoir reste entier. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur le sens de sa vie, sur le sens des épreuves, de ses afflictions, de pourquoi il est là et pourquoi ça ne bouge pas. Pourquoi, eh bien, finalement, il n'y a pas de vent dans les voiles. Pourquoi, eh bien, les choses sont ainsi. Alors je dis qu'avec Dieu, tout espoir est permis. Parce que Dieu a parlé et il nous parle. Cependant, nous avons notre part, c'est-à-dire engagés, et c'est la seule chose que nous ayons à faire, c'est une petite chose mais une grande à la fois, c'est engager notre volonté à accepter la réalité. Vous comprenez ce que ça veut dire la réalité ? Je ne peux rien changer à la situation. Je suis dans un état, dans une situation, dans des circonstances, dans un contexte où je ne peux rien, humainement parlant, faire quelque chose. Mais Seigneur, parce que tu es là, parce que je regarde à toi, je veux véritablement engager mon vouloir à tout simplement dire, eh bien, si c'est arrivé, si cela arrive, si tu le permets, c'est une réalité, et cette réalité, je la prends telle qu'elle est, Seigneur. Et souvent, elle est mauvaise. Souvent, elle est triste. Elle est douloureuse. Elle est souffrante. C'est vrai qu'il n'est pas facile, évidemment, après des mois et des années de dépit, quel que soit l'objet, après des mois et des années de dépression, voire de colère, courant d'une crise à une autre, parce que quand on est renfermé dans quelque chose, on essaie de trouver une échappatoire, on essaie de trouver une porte de sortie. On cherche la fuite, l'évasion en quelque sorte. Alors, courant d'une crise à une autre, de surmonter, écoutez bien le mot qui va suivre, de surmonter l'impression, c'est une impression qu'on ne s'en sortira pas. Parce que nous avons un ennemi. Notre ennemi, c'est l'habitude. L'habitude des choses dans lesquelles nous sommes renfermés, dans lesquelles nous sommes coincés, où nous nous sentons dans une grande frustration naturellement. C'est ce que Jésus dira à l'impotent dans la piscine de Bethesda, qui était là depuis 38 ans. Évidemment, hein, c'est quelque chose, 38 ans. Et Jésus va faire un électrochoc dans sa conscience et dans son être intérieur profond, pour lui dire, veux-tu être guéri ? Donc, il a provoqué en quelque sorte une réaction, pour dire qu'après tant d'années, tant d'habitudes, tant de réflexes négatifs, eh bien, est-ce que l'on veut encore en sortir ? Oui. Et que l'ennemi nous dit continuellement, regarde comment tu es. Regarde, tu as fichu ta vie en l'air. Ou on a mis ta vie en l'air, avec tout le ressentiment que ça peut avoir, naturellement. Et de l'écouter, et de finir par croire que c'est la vérité. Que le diable, que l'adversaire, nous dit la vérité. Nous faire prendre, finalement, eh bien, le mensonge pour la vérité. Alors, il n'est pas non plus facile, de victime que l'on se croit, parce que quelquefois ça peut être ça, de devenir un acteur de sa vie. Parce que certains, au bout d'un certain temps, se renferment dans ce contexte et dans cette situation en disant, ben, je suis victime, c'est vrai. Je veux bien croire qu'il y a des victimes et des innocents. Mais au bout d'un certain temps, de dire, eh bien, c'est comme ça. Et on ne prend plus en charge. On ne cherche même plus à savoir s'il y a quelque chose qui pourrait finalement, eh bien, bousculer tout cela. Parce qu'on ne voit que cet état de victime dans lequel on se trouve. C'est vrai pour tous les gens qui ont été violentés. C'est vrai pour tous les enfants qui ont été abandonnés. C'est vrai pour tous les enfants qui ont été séparés. Et puis, toutes ces choses qui quelquefois commencent à l'enfance, qui maltraitent dans tout simplement le développement de la personnalité. Et il y a des gens qui traînent ça jusqu'au soir, au terme de leur vie. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est Job qui nous apprend tout cela. Une aide nous est indispensable. Cette aide, c'est l'aide de Dieu, tout simplement. Parce que lui seul peut créer le vouloir et le faire. Vous connaissez cette citation dans Philippiens ? C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Seigneur, j'ai besoin d'être réarmé. Je suis comme un bâtiment, comme un navire qui est là sur le quai, sur le port, et qui ne bouge plus parce que finalement, je n'ai plus de... Je ne suis pas en état. Je ne suis plus en capacité. Et Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est ça ce que nous avons besoin. Chacun d'entre nous, dans un problème ou dans un autre, nous nous bagarrons avec ça. Il faut être honnête. Seigneur, je manque de vouloir. Mais si je n'ai pas le vouloir, je ne pourrais pas avoir le faire. Mais le faire, c'est le faire dans la foi. C'est de le faire non pas par moi-même, mais le faire en te laissant justement agir. Le vouloir et le faire, et il est ajouté d'ailleurs dans ce texte, selon son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, c'est que nous soyons des hommes libres. Des gens qui ont été affranchis, qui sont affranchis, et qui demeurent affranchis. Quoi qu'il en soit. Alors voilà quelques réflexions simples qui nous permettent de tirer les leçons spirituelles, oui, de nos pertes en tout genre. Avons-nous remarqué que le prophète Osée parle de désert? Oui. Au verset 16, il est dit « Et là, Dieu parle au cœur de l'homme. » C'est pourquoi je veux l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. À dire vrai, le désert n'est pas un lieu confortable. Hein? Nous, on a quelques dunes par là, on arrive à s'en tirer assez rapidement hein, quand on s'égare. Mais quand vous avez des étendues infinies, les déserts de ce monde, et le désert, il n'est pas seulement physique, il est moral, il est spirituel. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas normalement le quotidien des hommes. On ne vit pas dans le désert à moins d'être né, naturellement, dans ce contexte. Parce que c'est quelque chose qui nous inspire le dessèchement. Et puis, c'est un lieu qui est inhospitalier. C'est les grandes solitudes, c'est le vent, c'est toutes sortes de choses. Et on y souffre de la faim, on y souffre de la foi, de la soif, pardon, dans le désert. Il est brûlant le jour et il est glacial la nuit. Donc il y a des transitions, c'est bien un petit peu le tohu-bohu de l'âme humaine lorsqu'elle est dans la souffrance. On passe par différents états. Et comme ça, comme il y a cette variété, c'est vrai, de ressentis, mais toujours dans cette habitude, on se dit, mais on n'arrive pas à trouver cette stabilité, on n'arrive pas à trouver finalement la porte de sortie dans tout cela. Et souvent dans le désert, comme tous les voyageurs, perdus, égarés, ils sont pris par des mirages. Ils voient des choses qui n'existent pas. Alors là, on n'est plus dans la réalité. Et c'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan moral, c'est vrai sur le plan même physique. Quand nous sommes là, eh bien, à brûler l'intérieur avec la fièvre ou avec autre chose, ou lorsque vous sentez l'angoisse monter à l'intérieur de vous-même et que, c'est terrible. Et c'est très varié ces ressentis, c'est terrible. Et vous savez, dans le désert, on y est seul. Hein. Et c'est pourquoi Dieu nous met à part. Il nous dit, viens, je voudrais te dire quelque chose. Et il n'y a peut-être pas beaucoup de candidats pour aller au désert aujourd'hui. Hein. Et pourtant Dieu nous dit, viens, parce que j'ai quelque chose qui va te surprendre. J'ai quelque chose qui va t'étonner. Je voudrais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Je voudrais partager avec toi mes projets. Parce que j'ai un plan, toi tu ne vois plus rien. Tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir, mais moi, je vois la lumière pour toi. Alors ça, ce sont des paroles d'espérance. Ce sont des paroles qui font du bien. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. Néanmoins, le désert n'est pas un lieu qui est barré à l'espoir. C'est peut-être justement dans ces circonstances de notre vie où là, eh bien, nous touchons le plus près possible des choses nouvelles, des choses que Dieu a préparées pour nous. C'est une route. Hein. Le désert est une route ouverte sur la possibilité d'une histoire nouvelle. Quelquefois, on est fatigué dans notre vie. On est fatigué du train-train, de la routine. Et Dieu nous dit, tiens, voilà. Et quelquefois, quand Dieu nous montre le désert, on dit, mais tu ne te trompes pas parce que ce n'est pas tellement là où je voudrais aller. D'ailleurs, à la sortie d'Égypte, vous avez remarqué les Hébreux, ils avaient bien pensé qu'ils remonteraient tranquillement le long de la côte et puis ils arriveraient en Palestine. Et le Seigneur leur a dit, non, ce n'est pas là le chemin. Le chemin, il ne va pas vers le nord. Le nord, c'est le pays de Canaan. Mais le chemin pour aller au pays de Canaan, il passe par le sud. Il passe complètement à l'inverse. Alors, ils étaient complètement époustouflés. C'est pour ça qu'ils ont piqué des crises continuellement. Et j'aurais pas voulu être à la place de Moïse, hein, parce que qu'est-ce qu'il en a pris plein la tête, hein. Ouais. C'était terrible. C'était terrible. Alors, une histoire nouvelle, où l'on se retrouve, certes, face à soi-même, mais on se retrouve jamais seul parce qu'on se retrouve face à Dieu. Et il y a des créneaux comme ça dans notre vie, à un moment ou un autre, dans notre existence. Ouais. Il y a des créneaux où il y a des carrefours, rien à voir avec les centres commerciaux, hein. Mais où il y a là des déviations, toutes sortes de choses, et c'est pour mieux nous rencontrer que Dieu nous amène là. Et il faut se souvenir, et je parle d'Israël, que dans le désert, eh bien, ce n'était qu'un passage. Je reviens aux Hébreux à la sortie d'Égypte. Ce n'était qu'un passage pour eux, pour une expérience décisive où ils en sont sortis et nous, où l'on en sort lorsque le dépouillement est accompli. C'est une école de foi. C'est une école de proximité avec Dieu. C'est une école où on ne perd pas, où l'on gagne. Malgré le sentiment que nous ayons, que nous pouvons avoir, qu'on a tout perdu. Ouais. Alors qu'on ne perd pas, on gagne. On est en train de se constituer un trésor. Alors, Dieu se sert de nos pertes pour rectifier nos relations entre nous et lui. Vous savez, la vie, elle est comme cela. On marche depuis des années avec le Seigneur. Et quelquefois, les choses deviennent tellement habitudes, tellement routines, on n'y fait plus attention. Et quelquefois, ce sont des mauvaises habitudes, un train-train. Et on pourrait peut-être nous appliquer ce que le livre de l'Apocalypse dit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le feu, la flamme, l'ardeur, la ferveur. Ouais. Et là, il faut tout à nouveau repasser par quelque chose de rafraîchissant. Alors, ça passe aussi par le désert. Et notre relation va trouver de nouveaux horizons. Nous allons, en quelque sorte, nous allons renaître. Après une maladie, il y a une renaissance. Une maladie grave. Après, parfois, des grands chagrins, des larmes, des séparations, il y a une renaissance. Il y a toujours une renaissance avec le Seigneur. C'est le contraire de la mort. C'est le contraire de l'anéantissement. C'est le contraire de l'œuvre de l'adversaire. L'adversaire, vous en souvenez, voulait détruire Job parce qu'il était intègre et droit, tout simplement. Et dans l'épreuve, nous réalisons davantage notre identité de lui appartenir et nous ouvrons notre être à l'action du Saint-Esprit sur nous, ce que nous n'aurions peut-être pas fait avant, si nous n'étions pas passés par là. Ouais. C'est curieux, hein? Mais ça, je parle à des enfants de Dieu. Je ne parle pas à des gens qui vont venir pour se convertir, qui vont naître de nouveau, ça c'est encore autre chose. Mais nous-mêmes, nous passons par là. Et à un moment donné, quand on se sent tellement faible, tellement fragile, tellement seul dans notre désert, qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y en a qu'un qui compte, c'est le Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons dire, notre Père, nous sommes tes fils et tes filles, notre Père. Parfois, nous avons peut-être perdu cette appellation. Alors, le Saint-Esprit vient et il travaille en nous. Et il fait une œuvre en nous, en vue d'un nouvel avenir. Vous avez des perspectives d'avenir? Ça n'a pas l'air. Mais si vous en avez, parce que vous ne voulez pas me le dire, c'est tout. Voilà. Hein. Mais l'avenir, il est devant nous. Hein. Eh oui, il y a des choses inattendues. Et à chaque étape de la vie, hein, quand on est adolescent, quand on est jeune, ensuite quand on se marie, après quand on a des enfants, quand on rentre dans une situation et puis après une autre situation, c'est vrai que la nature humaine n'aime pas trop les changements. Hein. On est bien assis, on ne veut pas bouger, mais le Seigneur va se charger. Et puis, quand on arrive à la retraite, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors là, la pêche tous les jours, c'est quand même pas... Hein. Bon. Hein. Mais il y a des choses comme ça. Et on se remet toujours en cause et on se dit, Seigneur, alors c'est là où nous avons vraiment besoin du Seigneur pour lui dire, mais après, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Et c'est toujours cette image et cette pensée d'un nouvel avenir qu'il a préparé pour nous. Là, Dieu nous parle. Et nous allons vivre de ses paroles. Elles vont peut-être pas se réaliser, ses promesses, elles vont peut-être pas se réaliser demain ou après-demain, dans un mois, dans un an, peut-être ça sera dans 5 ans ou peut-être plus. Mais Dieu nous parle et nous allons nourrir cette promesse, nous allons la garder au fond de notre cœur jusqu'au jour où nous serons prêts. Mais nous passerons par des épreuves entre-temps. Et c'est souvent l'entrée, finalement, dans une nouvelle dimension, parce que c'est prévu depuis bien longtemps déjà, dans le cœur de notre Dieu. Et je l'ai remarqué, c'est souvent à travers des épreuves que l'on rentre dans une nouvelle dimension. Alors on se dit, Seigneur, je comprends plus rien, Seigneur. Ben oui, mais il ne nous a pas demandé de comprendre, il nous a demandé de croire. Et ça, c'est quand même deux choses différentes. Tout simplement. Alors il nous parle, et nous l'écoutons. Nous l'écoutons avec beaucoup plus d'attention parce que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas la main, hein, nous n'avons pas la maîtrise, parce que nous n'avons rien d'autre que lui. Et ça, c'est le but que Dieu veut atteindre. Rien d'autre pour nous distraire de lui. C'est pour ça qu'il nous emmène dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. L'amour de Dieu nous répète que nous ne sommes jamais abandonnés. Ça, c'est une chose dont nous avons vraiment besoin de garder, hein. Nous ne sommes jamais abandonnés. Son amour est un amour inconditionnel. Que je me sente indigne, ce qui arrive, que je me sente misérable, chargé de mes fautes et de toutes mes erreurs, ça c'est aussi des réalités, ne diminue en rien son amour pour moi. Parce que quand il est venu me chercher, il ne m'a pas pris parce que j'étais le meilleur, mais parce que j'étais le plus bas, le plus triste des individus. Oui. Alors, je ne vois pas pourquoi il changerait en cours de route. Et il sait très bien, quand il nous a pris, qui nous sommes. Il sait très bien ce que nous allons devenir avec nos hauts et nos bas. Et son amour est inconditionnel. Dieu demeure mon sauveur qui m'aime par essence et non par nécessité. Dieu ne se force pas à nous aimer. Il est amour par essence. Vous savez que la semaine dernière, nous avions ouvert une page, une réflexion sur les affections abusives. Vous vous en souvenez? Les affections abusives. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous nous étions posé cette question, nous étions interrogés. Dieu va-t-il me déposséder et me mutiler de ce que j'aime, de mes amours possessifs ou de mes amours abusifs? Parce qu'il y a des choses qui sont dignes d'être aimées, puis il y a des choses qui le sont moins. Ça, c'est sûr. Et nous avions répondu, ce que Dieu allait faire, c'était en sorte que je sois rempli de la plénitude de son amour, rempli de foi et d'esprit, afin qu'ensuite je puisse jouir de toute chose. C'est ce que Paul nous dit dans Corinthiens. Mais tout est à vous. La terre, le ciel, tout est à vous, la vie, la mort. Vous possédez toute chose. C'est nous remplir de cette foi et de son esprit pour que finalement nous possédions toute chose. Et nous avions cité ce beau poème. Et ça, c'est un de mes préférés. Un poème anglais qui dit ceci. C'est Dieu qui parle à ses créatures et qui dit « Tout ce que je t'ai pris, je l'ai pris non pour te blesser, mais pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Alors, lève-toi, saisis ma main et viens le prendre à la maison. » Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Dieu nous invite à rentrer constamment dans sa maison, parce que c'est une maison de grâce et de miséricorde. Et nous venons tels que nous sommes, avec nos souffrances, avec nos peines, avec nos chagrins, avec nos fautes, avec nos erreurs, avec nos péchés, comme nous sommes. Viens le chercher à la maison, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donc, je le rappelle, Dieu nous aime par essence et non par nécessité. Le désert de mes pertes est un endroit où je suis sevré de toutes mes sécurités humaines, et de tout ce que je peux m'accrocher pour me dire, eh bien, je tiens encore le coup. C'est la pédagogie de Dieu à l'égard de ses enfants. C'est le chapitre 12 du livre des Hébreux, vous pourrez le relire. Nous sommes alors livrés entre les mains du potier et du fondeur, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire pour nous, et il sait ce qu'il veut faire de nous. Nous sommes l'argile, et il nous pétrit, il nous prend. Il nous remodèle. Quand ça ne va pas, il nous reprend. Et il refait les choses. Ça va? Oui? Vous supportez? Eh oui, c'est ça l'œuvre de Dieu. Hein. Et il veut que nous devenions, écoutez bien, comme nous l'avons vu dans l'étude de l'Apocalypse que nous entreprenons en ce moment, il veut que nous devenions, que l'Église devienne, que chacun d'entre nous devienne un or purifié et toujours de plus en plus éclatant. Tout ce qui est apparence, ce qui est façade, ce qui est masque, eh bien passe au creuset. Et c'est là Dieu où Dieu va chercher notre moi réel pour enlever le moi d'apparence et de circonstance que nous avons tous parce que nous vivons en société. Le moi réel, le moi profond. Parce que Dieu ne voit pas l'autre. C'est là où il va travailler. Écoutez, vous connaissez aussi bien que moi cette parole, je la cite, mais je la lis. Parce que elle est aussi elle est pleine de sens. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 6, il est dit ceci, je rappelle en substance, deux versets. C'est là ce qui fait votre joie. Vous n'avez peut-être pas envie de vous réjouir quand vous êtes dans le désert et dans l'épreuve, mais c'est pourtant ce qui est dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand vous lisez dans le livre de Job, il est dit ceci, l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous nous retrouvons finalement dans ces deux textes, quand il est dit, qui est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur de Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. Voilà. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Dieu ne veut pas nous compresser, nous pulvériser. Il veut que nous soyons à la gloire et à l'honneur de son nom, tout simplement. Perte égale porte, porte d'espérance. Je lui donnerai les vignes de la vallée d'Accor, l'abondance, la richesse. Perte égale porte, et Paul nous dira que c'est un gain, qu'il le voit comme un gain. Alors, dans nos pertes, Dieu ne permettra pas que nous perdions la foi. Quelquefois, nous avons ce sentiment. Il est avec nous, et nous réaliserons tôt ou tard qu'au contraire, notre foi a été fortifiée. Elle ne va pas s'amenuiser, elle va grandir. Elle passe au creuset, elle passe à la flamme purificatrice. Et puis, ensuite, à partir de mon vécu de perte, Dieu va me conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot vérité, en hébreu, émet. En hébreu, émet, signifie qualité de ce qui a été mis à l'épreuve et s'est révélé solide. C'est révélé stable, c'est révélé constant, c'est révélé quelque chose qui demeure, c'est-à-dire ce qui permet d'unir et de tout tenir ensemble. C'est ça la définition du mot vérité, de tout tenir ensemble. Quand le mensonge est entré dans le monde, tout a été disloqué, mais tout était tenu ensemble jusqu'au chapitre 2 du livre de la Genèse. La vérité alors serait ce qui lie de manière stable et solide les choses et les événements entre eux. Ce que je suis, ce que Dieu est, les circonstances, les situations, mes pleurs, mes larmes, tout ça va être lié pour arriver finalement à produire la gloire de Dieu. Ma délivrance, la louange de la délivrance et de la libération. C'est ce qui lie de manière stable et solide tout ce qui peut arriver dans ma vie, les miettes ensemble, Jésus, les unir. Jésus est bien la vérité dans ce sens, dans les événements où j'ai perdu quelqu'un ou quelque chose, le Seigneur seul peut et va me donner la cohérence à ma vie. Dans l'épreuve, ça ne va pas être une dislocation, ça va être au contraire une homogénéité. Unir ou réunir tout ce qui me semble se désintégrer en moi et autour de moi. Dieu a un plan, et il est sage. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où il veut m'emmener, mais je sais une chose, parce que sa parole me l'enseigne. Et Job l'avait compris, quand il dit « Aimez que l'Éternel soit loué », c'est qu'il savait qu'il y avait un plan. Il y avait quelque chose. Et quand vous lisez la fin du livre de Job, on en tirera quelques versets tout à l'heure, vous allez voir que tout a été mis dans la vérité pour Job. Que tout a été remis en place. Tout a été replacé, alors que tout partait de tous les côtés. Le diable est un être pensant et intelligent qui divise. Dieu est un Dieu qui réunit toutes choses. Il a uni le ciel et la terre. Et Dieu va en un mot me conduire au vrai de mon vécu, à la vérité de mon vécu, et m'aider à reconstituer le puzzle. Vous savez ce que c'est que ce jeu, hein ? De ce qui a volé en éclats pour saisir l'œuvre que Dieu fait. Il y a bien des vies qui ont volé en éclats, il y a bien des couples qui volent en éclats, il y a des familles qui volent en éclats, il y a bien des situations professionnelles qui volent en éclats et toutes sortes de choses. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses, ou il permet plutôt les choses. C'est parce qu'il va les ramasser et les réunir. Et il va en faire quelque chose. Lui sait. En d'autres termes, redécouvrir mon vrai centre de gravité et le seul équilibre qui vaille, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que c'est ça. Dieu veut nous ramener à lui. Et il nous ramène à Jésus. Lui, il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Je le répète, il est la vérité. Il réunit. Quand vous lisez, et si vous faites une petite étude, sans qu'elle soit théologique, de l'Épître aux Éphésiens, vous verrez que tout est en lui, tout est en Christ, et tout est ramené à Jésus-Christ. Dans Philippiens, puisqu'il est question de cela, au chapitre 3 et au verset 8, il est bien parlé justement de cette homogénéité, de tout ce qui est ramené à Christ. Et Paul parlera de son expérience. Et s'il y a quelqu'un qui a souffert, moi je dis Paul c'est le Job, en quelque sorte, du Nouveau Testament. Et il dit ceci, « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Et vous lirez la suite et vous verrez que ça continue. Ouais. Paul avait bien compris que le centre et le but ultime, objectif, c'était Jésus. Et Jésus tout simplement. Avant de terminer, ce qui peut aider, parlons de la non-acceptation de nos pertes. Et je dis que cette non-acceptation de nos pertes, c'est un frein à l'œuvre de guérison et de rétablissement dont nous avons tous besoin lorsque nous avons été piétinés, écrasés, blessés ou que nous avons perdu quelque chose. La non-acceptation, ce qu'on appelait tout à l'heure de la dénégation, ou une colère permanente, ou une révolte devant les faits, eh bien c'est un frein à l'œuvre que Dieu veut faire pour nous guérir et nous rétablir. C'est le refus de faire son deuil après un décès, par exemple. C'est peut-être le blocage d'une séparation non reconnue. On ne l'accepte pas, cette séparation, et de fait, elle est là. Où l'on s'arrête, soit sur un état de colère, ou un état de haine, au fond de notre cœur, parce qu'on nous a fait du mal, et on ne pardonne pas, donc un refus de pardon. C'est parfois un refus, ou c'est parfois un sentiment de vengeance, une persistance à la culpabilité. Et même, ça arrive aux innocents. Il y a des gens qui sont innocents et qui se culpabilisent, alors qu'ils ne devraient pas se culpabiliser, parce que les coupables, c'est pas eux, ce sont les autres. Mais, parfois, eh bien, c'est cet état de culpabilité. C'est l'enfermement dans un état de dépression avec ce qui est entraîné, c'est-à-dire la complaisance. C'est l'angoisse du souvenir qui revient continuellement. Il suffit que j'entende, il suffit que je vois, que je me retrouve dans un lieu d'avant, et là, poum, tout me revient en pleine figure, comme la balle de tennis, eh bien, frappe la raquette, et le regret dans lequel je peux me renfermer. En résumé, c'est rejeter de vivre l'aujourd'hui tel qu'il est. Je me réfugie dans le passé, je n'ai aucune perspective pour l'avenir, et je dis non au présent. L'aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes en train d'écouter la parole, c'est là où Dieu nous parle. Dieu est l'éternel présent, il dit bien « Je suis celui qui suis ». Et il nous dit « J'étais, je viens, mais il est celui qui suis ». Et nous avons là une réflexion pertinente pour nous dire « Mais Seigneur, c'est aujourd'hui que je veux être guéri, c'est aujourd'hui que j'ai besoin de délivrance. Tu veux guérir mon âme, tu veux m'affranchir. Donc il ne faut pas rejeter l'aujourd'hui difficile ». Et il est comme il est, mais le Seigneur le sait. Et le danger consiste à chercher des pauvres compensations. c'est ce qu'Elkana, vous connaissez monsieur Elkana, le mari d'Anne, qui lui disait, parce qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, parce qu'elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et son mari lui disait, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Ben un mari c'est un mari, et 10 fils c'est 10 fils. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et ça, ce sont des faibles conversations. Et elle était malheureuse. Mais il y a une belle histoire. Hein. L'histoire d'Anne, c'est quelque chose de formidable et extraordinaire pour vous relever et puis vous redonner véritablement de regarder dans la bonne direction. Hein. Ah oui, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que quelquefois, on cherche des approximations ou des approximatifs, je ne sais pas comment vous voulez dire les choses, hein, des pauvres compensations, des faux fuyants, afin d'éviter le moment de la confrontation avec la réalité, et cette réalité que Dieu nous demande de l'accepter, tout simplement. Pour tous ceux qui sont blessés, pour vous qui êtes blessés ce matin, Dieu vous interpelle pour dire, c'est aujourd'hui, hein. C'est pas demain, c'est maintenant. Est-ce que tu le veux encore ? Prends ton lit et marche. Lève-toi et prends ton lit et marche. Je termine bientôt. Les conséquences. La non-acceptation d'une perte conduit souvent à souffrir d'une quelconque maladie qui résistera aux soins. À travers toutes sortes de symptômes que nous allons éprouver, toutes sortes de séquelles, de deuil, d'un deuil non terminé ou tout simplement d'une perte non acceptée. Et il y a des gens qui sont malades dans leur âme mais qui sont malades physiquement, qui deviennent malades physiquement avec tout le reste. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et ce n'est pas la maladie extérieure qu'il faut traiter, c'est d'abord à l'intérieur. Moi, ça me fait un mal terrible lorsque je vois des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je le dis, c'est vrai, parce que j'ai quelquefois des retours comme ça, des enfants ou peut-être même des jeunes adultes hein, qui n'ont jamais accepté la séparation de leurs parents. Et ils se disent, mais c'est terrible. Et ils sont invalidés pour leur vie, même peut-être pour faire leur vie personnelle. C'est terrible cela. Et dans d'autres circonstances, et d'autres situations, oui. Et les gens sont malades, et ils éprouvent toutes sortes de blessures, toutes sortes de souffrances, même sur le plan physique, ils n'arrivent plus à vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ont besoin d'une guérison, et le Seigneur va leur donner cette guérison. Moi ça je le crois, hein. C'est pour ça que la parole, elle est là pour aussi nous enseigner et nous amener à dire, mais relève la tête, ne sors de ton marasme, regarde, au bout du désert, il y a la lumière, il y a une porte d'espérance. La conclusion, 4 points, bref. Quel bienfait découle de l'acceptation de nos pertes ? La première chose, les premiers bénéfices, c'est la lucidité sur la situation. Parce qu'on sait que la vie ne sera plus jamais la même après, comme elle était avant, et qu'il faudra du temps pour retrouver l'équilibre. On est lucide. À un grand mal, il y aura un grand remède. Et il y aura, quelquefois, eh bien, une convalescence. Mais on ne perd pas espoir. On ne baisse pas les bras. On continue. Ça, c'est le premier des bienfaits. La lucidité sur la situation. Le deuxième point, c'est que, le second bienfait, c'est que l'on reprend goût à la vie. Une vie différente forcément, mais qui nous offre des perspectives positives. Je ne me renferme pas dans le négatif. Des perspectives positives, avons-nous dit. C'est un relèvement progressif où l'on constate que l'on n'a pas tout perdu. Même si on a perdu beaucoup de choses, on n'a pas tout perdu. On n'a pas perdu la vie. Peut-être quelquefois, devant certaines choses, on aurait préféré perdre la vie pour ne pas avoir à souffrir ce que nous connaissons. Mais on n'a pas tout perdu. On surmonte les moments de dépression et de désespoir plus rapidement au bout d'un certain temps. On résiste mieux à la tentation de ruminer sa peine et de la rapporter à l'un, de la rapporter à l'autre. Et vous connaissez ce genre de conseils. Plus on rapporte autour de nous, plus on est déprimé parce que les gens ne sont pas forcément toujours de bons conseils. Et on est capable à ce moment-là d'en parler ou de ne pas en parler. On a la maîtrise. Celle de choisir de lutter contre le courant négatif et destructeur. Et d'envisager de faire ou de projeter des choses. C'est une sorte de renaissance. Et on le voit après les grands drames de la vie. Après un temps d'hésitation, un temps où les gens sont restés dans le désert, ils repartent. Et on se dit, ça y est, hein, formidable. Merci Seigneur, parce que ces gens repartent pour la vie. Et ils ont appris de grandes choses. En tous les cas, une chose, que quand on a souffert, on ne juge plus les autres. Ça, c'est clair. On ne condamne plus les autres. C'est fini, parce qu'on a payé. On sait ce que ça veut dire. On ne juge plus hâtivement, arbitrairement, en disant, oui, mais s'il est comme ça, c'est ceci et cela. On ne le fait plus. Hein. Il y a une chose qui domine après, c'est la grâce et l'amour de Dieu dans notre cœur. On est lucide, hein. C'est très bien. Mais en tous les cas, on a exclu cela. Et puis, enfin, troisième bienfait qui en ressort, le dernier bienfait est une relation plus intime avec Dieu. Oui. Vous savez, quand on voit Job, quand il dit « Mais que le Seigneur soit béni », Job en est arrivé à cette conclusion quand il dit au chapitre 42, c'est-à-dire les derniers versets de ce livre. Il dira, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et d'ajouter cette parole, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'expérience, Seigneur. Ah, ça change tout, hein. Parce qu'on entend parler des choses, hein. Mais on les entend parler de loin. D'impressions, de toutes sortes de choses. Mais Job pouvait le dire, moi maintenant, c'est pas ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, j'ai touché de mes doigts, finalement, la réalité de toutes ces choses. C'est la conscience du soutien indéfectible de Dieu dans notre souffrance qui, hier, m'a amené à me tourner, vers lui, par désespoir, mais qui aujourd'hui me conduit à lui par choix et par amour. Ouais, j'ai choisi. Et dans le fond de ce choix, il y a mon amour pour Dieu. Cet amour qui est un retour, puisqu'il n'a jamais cessé de m'aimer, même dans les moments difficiles. Alors, Job nous dit ceci, et je termine. Puis il s'est jeté à terre, il se prosterna, il a dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Parce que le psaume 9 et le verset 10 nous dit ceci, « L'Éternel est un refuge pour celui qui est dans la détresse. » Le psaume 9. L'Éternel est un refuge au temps de la détresse. Ceux qui te connaissent, mais de quelle manière nous le connaissons? Par oui dire ou par vécu? Ceux qui te connaissent se confient en toi, car tu n'abandonnes pas celui ou celle, ceux et celles qui te cherchent. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers sa parole. Que Dieu vous fasse du bien et nous relevons la tête pour regarder à lui. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, c'est une parole de guérison. C'est une parole, Seigneur, qui n'est pas une guérison magique, qui n'est pas une guérison, en effet, Seigneur, qui serait faite avec des sensations ou avec tout ce que nous pouvons connaître, Seigneur, là, d'artificiel. Mais cette guérison, elle passe par notre compréhension. Elle passe par notre intelligence, ça se passe par notre cœur, elle passe par notre volonté. Tu travailles dans le fond de nous-mêmes, tu travailles dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos esprits. Et tu nous montres encore que là où nous, parfois Seigneur, nous sommes encore aux prises avec des grands chagrins, avec des grandes peines, des grandes souffrances, qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles, eh bien tu nous dis que toi tu as ouvert une porte d'espérance, Seigneur, et que nous retrouvons les jours de notre jeunesse. Ouais Seigneur, c'est toi qui nous fais renaître. Alors c'est vrai, Seigneur, que tout cela, c'est l'école de Dieu. C'est l'école, Seigneur, à laquelle tu soumets tous les hommes. Et il n'y a pas que les enfants de Dieu, il n'y a pas que les chrétiens qui passent par là. Il y a même des gens, Seigneur, qui sont là, Seigneur, en effet autour de nous, qui ont appris les grandes leçons de la vie. Alors à combien plus forte raison, nous, qui partageons la même vie, mais qui avons la connaissance de Dieu. Devons-nous regarder, Seigneur, eh bien les lueurs dans le ciel, parce que ces lueurs annonce une grande lumière, notre vie de délivrance, notre épanouissement, l'abondance, Seigneur, que tu as préparée, un enrichissement pour nous-mêmes, mais aussi un enrichissement pour les autres et la gloire de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs maintenant. Tu leur fais du bien, tu les réconfortes. Oh, Seigneur, ce sont des paroles, Seigneur, qui sont des paroles qui doivent être, eh bien, des paroles, Seigneur, de guérison, de vie. Oui, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et c'est à nous, à chacun, Seigneur, d'en prendre, de prendre ces paroles et de les garder pour soi, de les prendre pour soi. Et c'est une chose, Seigneur, qui se passe entre nous et entre notre Dieu, entre notre Père Céleste. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé ce matin que tu ne nous aimes pas par nécessité, mais tu nous aimes par amour, tu nous aimes tout simplement parce que tu as fait le choix, et tu nous aimes par essence, parce que tu es amour. Merci, mon Dieu, merci, Jésus. Amen, bénis ton peuple. Passe maintenant dans les rangs, passe maintenant dans les vies, passe dans les cœurs, Seigneur. Tu connais la somme de souffrance et de peine. Alors, Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre. Ce n'est pas le domaine de l'homme, c'est le domaine de Dieu et de son Saint-Esprit, préparé par la parole que nous avons entendue et qui donne la foi. Merci Jésus. Amen.